Shalom Ouvracha, Boker. Boker. Évidemment. Boker Tov. Boker Tov, les Koulam, ça y est, ça a l'air de vrai. Shavua Tov. Shavua Tov, on est Yom Rishon. Et Yom Rishon, eh bien, comme à notre accoutumée, eh bien, on étudie depuis déjà 2 semaines, on étudie la Teshuvah. Et encore pendant 2 semaines. Shavua Tov, Alex. On étudie la Teshuvah. Et durant cette étude, eh bien, aujourd'hui, alors qu'on a évoqué déjà. D'abord, ce qu'était la teshuva de manière générale. On a vu que, de manière idéale, la teshuva n'a rien à voir avec les fautes. C'est un retour vers notre identité profonde, vers Akadosh Baruch Hu. Nous avons vu la semaine dernière que, eh bien, celui qui aurait fauté, il a quand même un moyen, quoi qu'il arrive, de se rattacher. Et pour ça, il faut qu'il aille suivre son route, son fil conducteur qui le rattache au divin. Aujourd'hui, on va évoquer eh bien, une autre dimension, une dimension fondamentale de la Teshuvah, et une dimension qui est à la base, a priori, assez surprenante. Car on a dit, il y a celui qui faute pas, c'est l'idéal, il y a celui qui faute, bon, ben, il a fauté, il va corriger, mais c'est d'air. Mais est-ce qu'on pourrait trouver, eh bien, quelque part, un bon côté à la faute? Et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Y aurait-il un bon côté à fauter? Alors, vous comprenez bien que cette phrase est terriblement dangereuse. Parce que si on dit que non, bon ben ça va, mais on n'a pas de cours. Et si on dit que oui, ben peut-être que les gens vont être attirés par la faute. Alors, je préfère le dire tout de suite. Il est interdit de fauter d'après le judaïsme. C'est-à-dire que, quelles que soient les choses qu'on va dire maintenant, il est interdit de fauter dans le judaïsme. C'est-à-dire que nous devons respecter toutes les mitzvot, quoi qu'il l'arrive. Ok ? Donc maintenant qu'on a dit cela, alors on peut rentrer dans le vif du sujet. Quel est le vif du sujet ? Eh bien, nous avons une marloquette dans le Talmud entre finalement Resh Lakish et le reste des Chachamim qui vont nous dire la chose suivante. Alors, vous connaissez très certainement cet enseignement du Talmud, et je vous le lis ici. Attendez, autant pour moi. Hop, 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 hop. Où es-tu? Où es-tu? Ah là 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 là. Voilà. Voilà. J'arrive. Amar Resh Lakish. Donc, nous sommes dans le traité de Yoma. Dans le traité de Yoma à la page Pevav. Et nous dit le Resh Lakish suivant. Amar Resh Lakish, Gdola Teshuva, Shezdonot Nasot Lo Kishgagot. Nous dit Resh Lakish, la Teshuva est grande, car elle est capable de transformer les fautes que j'ai fait volontairement, les Zdonot, Zadon, Mézid, en Shgagot, c'est-à-dire en Shogeg, en faute par inadvertance. Sheneemar, Teshuva, Israël, Adashem, Elohecha, Kikashalta, Bavonecha, alors, nous dit le Talmud, ah, avon mezid hu, de kai karelei mirshon, eini, comment c'est possible? Amar Resh Lakish, gdola teshuva, shesdonot nasat lo kisruyot, sheneemar u beshuv rasha mirisho, vaasa mishpat u tzedaka alehem, hu yichye. Nous dit Resh Lakish, en fait, il a deux dimensions différentes de la teshuva. D'un côté, il nous dit que la tshuva, elle est grande puisqu'elle est capable de changer, si vous voulez, les fautes volontaires en fautes involontaires. Seulement, juste après, il nous dit non, en fait, la tshuva, elle est très grande puisqu'elle change les fautes volontaires en mérite. C'est encore autre chose, là. C'est-à-dire qu'on change les fautes en mérite, en bonnes actions. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, Resh Lakish va nous dire... D'ailleurs, dans la paracha de la semaine, on a une mitzvah de faire teshuva. Oh, mon ami, tu ouvres ici une grande, grande, grande question, car tu dis que dans la paracha de cette semaine, paracha de Nitzavim, nous avons une mitzvah de faire teshuva. Veshavta d'Hashem Elohecha, veshamata bekolo. Le problème de ce que tu dis là, c'est que c'est une marloquette. C'est une grande marloquette, comme on l'avait vu dans le premier cours sur la teshuva. Grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Pour le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuvah. Et quand Alors, le Rambam connaît le verset de la parasha de Nitzavim. Alors, il dit, alors c'est quoi? Veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Il dit, non, ça c'est que par rapport spécifiquement à ce qui vient d'être dit dans Kitavo, dans les malédictions. Donc, ce n'est pas la mitzvah de faire teshuvah. Pour le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuvah. Il y aura une mitzvah, si jamais tu as fauté, de faire le vidouille. Pour le Rambam, c'est la seule mitzvah, c'est le vidouille. Alors que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, lui dira au contraire que ce verset est la preuve qu'il y a une mitzvah de faire teshuvah de Oraita. Donc, tu vois, ce n'est pas aussi clair de dire qu'il y a une mitzvah de faire teshuvah. Quoi qu'il en soit, Resh Lakish donc nous dit, soit la teshuvah, elle change les fautes volontaires en fautes involontaires, ou alors elle change les fautes volontaires en mérite, en bonnes actions. Comment comprendre ça? Alors d'abord, comment comprendre la stira, c'est-à-dire la contradiction interne entre Resh Lakish et Resh Lakish? Il dit le Talmud, non, loka shia, ce n'est pas un problème, car il s'agit de deux tshuvas différentes, kan me'ahava et kan mi'ira. C'est-à-dire la teshuva qui transforme mes fautes volontaires en involontaires, c'est une tshuva par la crainte, alors qu'une teshuva qui transforme les fautes volontaires en mérite, c'est une tshuva par amour. Alors, venez, essayons de comprendre de quoi il s'agit véritablement. Eh bien, la première partie est assez facile à comprendre. Mazé tshuva mi'ira. La teshuva par crainte. La teshuva par crainte, finalement, c'est assez simple à comprendre. Je n'étais pas conscient de, je sais pas moi, de la punition divine. Maintenant que j'ai appris, oh là là, si j'avais su que si j'avais oublié de faire une bracha avant de manger un chewing-gum, eh bien, je risque de brûler dans le four numéro 13 du Gehinnom, eh bien, j'aurais fait la bracha. Ça, c'est la tshuva mi'ira. J'ai peur de la conséquence de ma faute. Et donc, finalement, puisque tu dis « si j'avais su, je ne l'aurais pas fait », eh bien, alors ça veut dire que ce n'est pas véritablement une faute volontaire, puisque tu n'avais pas tous les tenants et les aboutissants quand tu as fait la faute. En d'autres termes, eh bien, une tshuva mi'ira qui te fait prendre conscience de la peur de la punition, eh bien, ça te fait prendre conscience qu'en fait, tu n'étais pas véritablement volontaire lorsque tu as fait la faute. Donc, ça devient une faute involontaire, puisque tu n'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Mais celle qui nous intéresse vraiment, c'est la deuxième partie. Gdola tshuva shoferet zdonot lishruyot. Cette tshuva qui transforme les fautes volontaires en mérite. Et là, eh bien, les amis, il va falloir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, je vous propose de rentrer tout doucement parce que c'est une sugya extraordinaire. C'est une sugya extraordinaire. Parce qu'il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Comment pouvons-nous imaginer que la faute qui est pas bien, interdite, devienne à un moment donné une source de bénédiction? Alors, pour comprendre cela, il va falloir d'abord se poser la question, une question fondamentale, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas comment on va réussir à tout traiter en un cours, mais on va y arriver. Une question fondamentale. La question de où est ma part de responsabilité dans la faute. Eh bien oui, car là on est en train de dire qu'au final j'ai fait une faute, mais ça va amener un mérite. Donc d'après la Torah, bon, autant faire des fautes peut-être, si c'est pour amener plein de mérites. Je fais des fautes, ensuite je fais tshuva et j'amène des mérites. Non. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question préalable de quelle est ma responsabilité dans la faute. Pour cela, il va falloir retourner voir cette Mishnah, cet enseignement de la Mishnah de Rabbi Akiva dans Pirkei Avot, qui nous dit cette phrase qui a fait couler énormément d'encre. « Hakol tsafuy ve'areshut netuna. » Tout est prédestiné et pourtant le choix t'est laissé. La question donc du libre-arbitre retentit avec toute sa force. Est-ce que tout est prédestiné ou est-ce que le choix t'est donné? Alors, on pourrait rentrer dans plein de débats halakhiques, le Rambam, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Le Rambam va nous dire, sache que tu es totalement responsable, et puis sache que, oui, c'est vrai que ça pose un problème avec le fait que Dieu, il sache d'abord à l'avance, mais te prends pas la tête, sache que c'est toi qui décides si tu es tzadik ou racha. Bon, mais sache que Dieu, il sait. Bon, ben, c'est compliqué, ben, c'est pas grave. Dans l'Ilchot Teshuvah, chapitre 5, tu pars en cacahuète. Si bien que le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, va dire du Rambam qu'il a fait quelque chose qui n'est pas du domaine de Minag HaChachamim. C'est pas intelligent d'ouvrir une question énorme et de ne pas la refermer. Certains rabbins vont trancher. Le Ralbag, il me semble que dans le judaïsme, on a un total libre arbitre. Mais justement, le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, un des grands rishonim, lui, il a tranché, c'est clair. Il dit, Dieu sait tout ce qui va se passer à l'avance, chutz, sauf ce qu'il a trait au choix de l'homme. Les actions de l'homme basées sur ses choix, eh bien, Dieu ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Voilà l'avis du Ralbag. Ah bon ? Donc Dieu ne sait pas, selon le Ralbag, quelle chemise je vais mettre demain. Nous ? Évidemment que tous les rabbins n'ont pas accepté. Rabbeinu Chisdaï Kreskas, par exemple, dans son livre Or Hashem, il a dit, mais comment est-ce possible de dire quelque chose comme ça ? Et donc il dit, absolument pas. En fait, tu crois que tu as le libre arbitre, mais en fait, tu es un pantin dans les mains d'Akadosh Baruch. En d'autres termes, nous dit Rabbeinu Chisdaï, c'est bien fait, mais tu crois que tu as le libre arbitre, mais en fait, tu ne l'as pas du tout. Donc, tu vois qu'il y a des tendances dans le judaïsme qui disent qu'il n'y a pas de libre arbitre, comme dans l'islam sunnite, où il n'y a pas de libre arbitre. Alors, qui a raison ? Rabbeinu Chisdaï ou le Ralbag ? Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il va lire les deux. Et il dit, j'ai vu la kfira du Ralbag, qui dit que Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai vu comment Rabbeinu Chisdaï, il a essayé de s'enfuir de cette kfira-là. Le problème, c'est qu'il est tombé dans une kfira encore plus grande, de dire qu'en fait, on n'est pas responsable de nos actes. Parce qu'à ce moment-là, toute la dimension de Sakhar va-Onesh, de récompense ou de punition, n'a plus lieu d'être. Si ce n'est pas moi qui suis responsable de mes actes, ça ne veut plus rien dire. Alors, le Rav Kook, justement, est-ce qu'il tranche sur cette machloket ? Eh bien, c'est une grande question. Mais avant d'arriver au Rav Kook, l'histoire de Shruyot, d'Averot qui deviennent des Shruyot. On va essayer de comprendre tout cela ensemble. Après Rav Kook, il y avait un de ses mentors, Rabbeinu Tzadok HaKohen Miloublin. Tzadok, alors, Rav Kook n'a pas étudié directement chez lui, mais on voit très bien qu'il se revendique de lui. Rabbeinu Tzadok HaKohen Miloublin dit la chose suivante. Dans le livre Tzidkat HaTzadik, au Siman, à la partie 40, eh bien, nous dit Reb Tzadok la chose suivante. Il nous dit qu'il faut, pour comprendre l'histoire, l'entrevoir avec deux prismes. Il y a deux visions de la Torah, deux visions pour comprendre l'histoire. Ce n'est pas à choisir une ou l'autre. Il y a deux visions et il faut voir les deux. Et il donne un exemple. Il y a la vision Lechatrila et la vision Bediavad. Sauf que, en fait, la vision a priori et a posteriori, mais en fait, la posteriori devient l'a priori. De quoi parle-t-on ? On va prendre un exemple. Moshe reçoit les Luchot Abrit, les tables de la loi. Il descend de la montagne, il voit le veau d'or et il brise les tables de la loi. Puisqu'il les a brisées et qu'il demande pardon pour le peuple juif, eh bien, Dieu va lui donner les deuxièmes tables. D'après cette explication-là, c'est-à-dire en fait la lecture, tout simplement, au sens propre du texte, eh bien, les deuxièmes tables de la loi sont a posteriori. On aurait préféré ne pas les avoir, on aurait préféré avoir uniquement les premières. Il y a eu un problème, donc on a les deuxièmes. Mais il peut y avoir une autre lecture, celle disant que les deuxièmes tables sont préférables aux premières, parce qu'il y a une participation de l'homme à l'indifférence des premières. Là, c'est Moshe qui amène les tables et Dieu écrit dessus, alors que dans les premières tables, c'est Dieu qui fournit tout. Et donc, les deuxièmes ont beaucoup plus d'importance puisque… Comment ça, on ne m'entend pas ? On ne m'entend pas ? On m'entend ? Houston, on m'entend ? On m'entend ? On m'entend ? Oui ? Non ? Non ? Oui ? J'espère que oui. Bekitsour, À ce moment, il n'y a pas de bruit de fond, je suis tout seul.
Tu m'entends? Là, c'est bon? C'est bon, on m'entend, on m'entend? Je crois que les bruits de fond, ils viennent de chez toi, mon ami.
La deuxième version, on a dit, c'est de voir les tables numéro 2 comme étant préférables. Seulement, il ne peut pas y avoir de table numéro 2 s'il n'y a pas eu tout d'abord brisure des premières. En d'autres termes, dans cette deuxième lecture de l'histoire, les deuxièmes tables sont préférables et sont a priori, mais il a fallu passer par les premières pour arriver aux deuxièmes. En d'autres termes, nous dit Reb Tzadok, Kohen Miloublin, pas de problème, nous dit Reb Tzadok, il peut y avoir deux visions de la Torah. La première vision est du point de vue de l'homme, la deuxième vision est du point de vue de Dieu. Donc, à ce niveau-là, on comprend que mes erreurs, ce sont des erreurs de mon point de vue. Est-ce qu'il en est de même du point de vue de Dieu ? Et là, ça rejoint ce que dit le Rav Kook. Car le Rav Kook nous dit la chose suivante. « Echad mi yisodot ha-teshuva b'marshavto shel ha-adam ya'akarat ha-achayut shel ha-adam b'ma'asav » dit le Rav Kook dans Orot ha-teshuva, au chapitre 16, eh bien, que l'une des bases de la teshuva, c'est que l'homme doit être conscient qu'il est responsable de ses actions, donc de ses fautes. Pas de problème. Maintenant, continue le Rav Kook en disant « Ok, mais une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris que c'est moi qui suis responsable, d'ailleurs c'est ce que je dis dans le vidouille, je dis « Aviti, Pachati, Zéani », c'est moi qui ai fauté. Mais une fois qu'on a compris cela et qu'on a fait teshuva, c'est-à-dire qu'on s'est complètement détaché de la volonté de la faute, c'est-à-dire que la teshuva c'est Harata, c'est-à-dire je reviens en arrière dans mon esprit et je dis je n'en veux plus, je me désolidarise complètement de la faute. Ce qui fait que ton identité n'est plus attachée à la faute et pourtant l'action de la faute est toujours là. À ce moment-là, eh bien Kadosh Baruch Hu vient et nous dit « Tov, tu n'en veux plus ? Alors Zebishvili, puisque tu as abandonné l'idée de la faute, alors elle m'appartient. » En d'autres termes, tu as un libre arbitre total, mais lorsque tu mets ta volonté complètement au diapason avec celle d'Akadosh Baruch Hu, alors ben ce n'est plus ta volonté. En vérité, de quoi il s'agit ? Eh bien, vous le savez, le libre arbitre existe au niveau individuel, mais pas au niveau collectif. Donc, lorsque j'annule mon identité individuelle au profit du collectif qui s'appelle le peuple juif, le monde, le plan divin, alors effectivement, Zekvarlo Sheli. Oui, non, le vidou du quotidien, on dit Hachamnou, bien sûr, c'est par rapport à toute la tfila. Toute la tfila, on la met au pluriel. Toute la tfila, on la met au pluriel pour qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde comme étant faisant partie d'un collectif qui, lui, est saint, et donc ne pas voulant tout le temps regarder mes petits problèmes. Donc, je m'intègre dans le tzibour, Zemidarche Atefila. C'est-à-dire, Bekitsour, en d'autres termes, eh bien, il y a ici une dimension incroyable que lorsque je fais teshuva, la faute ne m'appartient plus. C'est ce que va dire Yosef à ses frères. Vous savez, les frères de Yosef ont vendu Yosef, pas très cool. Et lorsque Yosef, finalement, va les retrouver, alors qu'est-ce qu'il leur dit ? Eh bien, Yosef leur dit la chose suivante. Dans le verset, dans le livre de Bereshit, au chapitre 50, il leur dit la chose suivante. C'est vrai, au chapitre 45, il leur dit la chose suivante, c'est vrai. Deu. Ve'atem chashavtem elai ra'a, Elohim chashava letova. Elohim chashava letova, c'est-à-dire que vous avez pensé à faire le mal, mais Dieu, il avait une idée derrière la tête. Quand il avait dit avant, vous m'avez envoyé ici, ben oui, on comprend très bien, vous m'avez envoyé ici. Et là, il essaie de leur dire, bon, écoutez, vous m'avez envoyé ici, mais Dieu, il avait une idée derrière la tête. Et lorsqu'il entend leur teshuva, lorsque Yosef entend la teshuva de ses frères, à ce moment-là, arrive un nouveau verset dans lequel il va nous dire, « Atta lo atem shelartem oti ena, ki a Elohim. » Ce n'est plus vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Comment ça, c'est plus vous ? C'est vous ? Non ! Vu que vous avez fait teshuva, vu que vous ne voulez plus de cette faute-là, alors, ben, ce n'est plus à vous. La faute vous a été destitué. Eh oui, c'est incroyable. La notion de libre arbitre, c'est tant que moi, ma volonté, eh bien, c'est ma volonté. Mais lorsque ma volonté, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus la mienne. C'est ce qu'on peut retrouver dans le Midrash, petit Midrash qui s'appelle Midrash Petirat Moshe Rabbeinu. Dans le Midrash Petirat Moshe Rabbeinu, Becheder Arishon, eh bien, nous avons l'histoire du dialogue entre Dieu et Moshe pour que Moshe accepte de mourir. Oui, car le Midrash nous explique que Moshe voulait, il a dit, non, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais mourir. Je ne mérite pas de mourir, donc je ne meurs pas. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, non, 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 Zelo Beseder. Voilà pourquoi tu dois mourir. Et il lui rapporte 14 raisons. Seulement dans les 14 raisons, Moshe répond et explique pourquoi non, ben non, Zelo Fer. Et arrive la dernière raison, il dit, non, bon, écoute, tu dois mourir parce que tu as tué l'Égyptien. Ah, tu as tué l'Égyptien, donc tu dois mourir. Moshe répond à Dieu, ah, j'ai tué l'Égyptien, mais j'en ai tué un. Toi, dans la mer, tu les as tous tués. Et là, Dieu lui répond, oui, mais moi, je peux les ressusciter. Et toi, tu ne peux pas le ressusciter. En d'autres termes, ne me dis pas que lorsque tu as tué l'Égyptien, c'était pour moi. C'était pour toi. À ce moment-là, Moshe a accepté de partir. Mais Rabotai, qu'est-ce que c'est en train de vouloir dire, toute cette histoire-là? Cette histoire-là nous dit que le prototype de la Teshuvah, c'est de comprendre qu'en fait, je dois ramener mon identité à la volonté du Créateur. Lorsque je ramène mon identité à la volonté du Créateur, eh bien, ce n'est plus moi. Mais oui, c'est moi, mais ce n'est plus moi. Mais oui, c'est moi. C'est-à-dire que je me détache complètement de la dimension négative de la faute. Une fois que j'en suis complètement détaché, alors je peux voir le projet divin et donc tous les bienfaits qui sont sortis de cette faute-là. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, lorsque véritablement je ne suis plus du tout attaché à ma faute et que je comprends que l'action a amené quelque chose de positif, eh bien, je peux dire, ah, donc maintenant, je comprends que cette action-là a amené en fait un mérite énorme. Mais ce n'est que lorsque j'ai terminé d'en vouloir de cette faute-là. Alors, rétrospectivement, je comprends que c'était gadol. C'est ce que dit le Rav Kook dans Orot HaTshuva, chapitre 7, alinéa 7 étoiles, qu'il faut énormément avoir foi dans cette force de la Teshuva. Jusqu'à ce que lorsque tu te rappelles de chaque faute, ça éveille en toi un sentiment de simcha atzuma. Car enfin, les shgagot, les sdonot, les fautes volontaires deviennent des mérites. Pourquoi ? Parce que je n'en veux plus. En d'autres termes, j'en veux plus. Dieu nous dit, t'en veux plus ? Bon, ben, très bien, alors tu mérites. Évidemment que si tu fais la faute pour avoir le mérite, ben, ça ne marchera pas. Bien sûr, puisque ça ne deviendra un mérite qu'après la teshuva et une véritable teshuva, ça veut dire que tu es véritablement dégoûté de ce que tu as fait. Tu ne voudrais pas l'avoir fait. Sinon, ça ne marche pas. Et comment est-ce qu'on sait si tu as véritablement, tu es honnête quand tu dis que tu n'en veux plus? Eh bien, c'est lorsque tu décides de ne plus le refaire. Lorsque tu ne le refais plus, eh bien, ça veut dire que mais, tu n'en veux plus. Pas shoot. Ainsi, la Rizal nous explique un enseignement extraordinaire. Dans Shar HaPesukim, sur le livre de Shemot, bien dit la Hari la chose suivante. Vous savez, quand on parle du mois de Elul, alors tout le monde connaît cet enseignement qui nous dit que Elul, ce sont les lettres, les initiales de Anil et Dodiv et Dodili. Mais la Rizal a une autre explication au mois de Elul. Pour la Rizal, Elul, c'est Inna le yado vesamti lecha. Elul, inna le yado vesamti lecha. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, quand on regarde le livre de Shemot, dans le verset 14 du chapitre 21, eh bien, on dit le verset suivant, ki yazid ish el re'u leorgo be'orma, me'im misberit ekachenu lamut. Si quelqu'un a tué son prochain volontairement, eh bien, même s'il s'accroche au misbeach du Beth Amikdash, eh bien, tu le prendras pour aller le juger, le condamner à mort. Vacher lotzada, et celui qui n'a pas fait la chose volontairement, alors quoi? Va'elohim inna leyado vesamti lecha makom asher yanus shama. C'est le verset qui nous présente ce qu'on appelle les villes de refuge. Et là, on nous dit, lorsqu'il n'a pas fait volontairement, alors va'elohim inna leyado vesamti lecha makom. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu t'a laissé un endroit où tu vas pouvoir te réfugier. Et c'est quoi cet endroit où tu vas pouvoir te réfugier? Zamakom. Et Zamakom, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, nous dit la Rizal, lorsque tu as fait une faute, eh bien, tu peux te réfugier chez Dieu. Et lorsque tu te réfugies chez Dieu, eh bien, tu comprends que tu n'en veux pas, tu fais tshuva, et à ce moment-là, eh bien, tu te rends compte que finalement, ben, tout ce que j'ai fait, en fait, Zayatov. Mais je ne peux intégrer cette dimension de Zayatov que lorsque, eh bien, je n'y suis plus. Et pour ça, il faut être très honnête dans sa teshuva. Mais il faut bien comprendre qu'au final, lorsqu'on revient vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on ne doit pas annuler une partie de notre vie. Je vais vous dire, très honnêtement, hier, Shabbat, j'avais une bar mitzvah dans ma communauté. Et j'ai demandé au bar mitzvah, avant Shabbat, de quoi voulait-il que je parle durant le discours, machin ? Quelles étaient les choses très importantes pour lui ? Qu'est-ce qu'il kiffait dans la vie ? Il m'a répondu qu'il kiffait beaucoup, beaucoup Netflix. Ah, je dis, bon, ok. Et est-ce qu'il y a des films en particulier que tu kiffes ? Et il m'a cité des films qui, pour la plupart d'ailleurs, sont des films des années 90 et tout début des années 2000. Même s'il y en a qui sont des séries, enfin il y en a plein de films derrière, mais les trois films qu'il m'a cités, je les connaissais. Parce qu'encore une fois, c'est des vieux films que moi j'ai vus, enfin vieux, que moi j'ai vus quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et je me dis, mais c'est incroyable. J'ai réussi finalement à te faire un Dvar Torah par rapport à la paracha et par rapport à ces trois films. Si je ne les avais pas vus, j'aurais pas pu parler à ce jeune-là un langage qu'il comprend. Donc, je suis content de les avoir vus, mais je suis content de les avoir vus parce que je ne les vois plus. Parce que si je continue à être fan de ces films-là, je ne peux pas en tirer un Dvar Torah, parce que ce ne sont pas des films qui sont... Il y a des films qui sont des films cachers et qui sont importants et machin. Là, ce n'est pas des films cachers. Ce n'est pas des films bien. Donc, si je continue à les voir aujourd'hui, zélo, ma team. Mais si tu décides que non, tu ne les vois plus, ces films-là, mais tu les as vus. Très bien. Tu as fait tchouba, tu n'en veux plus de cette dimension-là. Mais maintenant, elle est là. Et donc, elle peut te servir, l'ikdusha. Et ça, c'est l'enseignement des chassidim lorsqu'ils nous disent ce vort incroyable. Gadol kidush Hashem michilul Hashem. Je terminerai par là en disant, mais c'est quoi Gadol kidush Hashem Michilul Hashem. Le Kiddush Hashem est plus grand que le Chilul Hashem. Todaraba. Évidemment. On nous dit les Chassidim. Gadol Kiddush Hashem Sheba Mitoch Chilul Hashem. Il est tellement plus grand le Kiddush Hashem qui vient du plus profond du Chilul Hashem. Parce que ça veut dire que tu as réussi à corriger tout ça, à élever ce qu'il y avait à élever et à jeter ce qu'il y avait à jeter. Et à ce moment-là, eh bien, tout est zdonot, offrim les sruyot. Tes fautes deviennent des mérites et tu peux te rattacher complètement à Kadosh Baruch Hu. À bientôt, les amis.